serai le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Stéphane.
Bonjour David. Bonjour à tous.
Bonjour,
bonjour à vous. Et bonjour Gavin.
Bonjour.
Alors, vous êtes également avec nous pour nous emmener loin. Mais alors, très loin. Bon, chaque fois, vous nous emmenez très loin. Vous êtes un globe-trotteur de l'histoire. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser. Oui, parce qu'ils ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont cependant un point commun. Aujourd'hui, ils ont eu le déclic de la photo.
Ah, déclic, photo, bravo!
Non, mais vous savez, on fait ce qu'on peut, Jean-Luc. Hein. Franchement, bon, ils ont le déclic de la photo, c'est donc le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi.
Si la photo est bonne.
Oui, oui, cher Barbara, oui, la photo, elle est bonne. Elles sont bonnes, ces photos, même si ce n'est pas le métier premier de nos personnages du jour. Vous allez voir quand même qu'ils ont l'œil et même les deux. À commencer par celui dont on commémore aujourd'hui les 120 ans de la disparition, l'écrivain Émile Zola, qui s'est découvert une autre passion devenue une sorte d'obsession, la photographie. Puis lui aussi a fait de la photo et a emporté son appareil partout, sur les tournages de films, dans les soirées et les dîners, dans les bars, dans les manifestations, dans les galeries d'art. Je vous raconte l'acteur Dennis Hopper qui a raconté sa génération en photo en noir et blanc et en couleur. Et après les morts, le vivant. C'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui allez dresser le portrait de notre troisième personnage du jour. Un animateur télé qui fait de la photo ou un photographe qui fait un peu de télé?
Oui, en fait, ça marche dans les deux sens. Et parfois même, il fait des photos à la télé. Je tire le portrait de votre pote Stéphane, Nikos Aliagas.
Ah bah oui, oui, oui.
Votre
oui.
Ami.
Il a déjà fait votre portrait?
Je n'ai pas eu cette chance.
Non?
Bah oui, ah je
bon,
dois être trop moche.
Demander. Non, mais non. Non, regardez, il a bien fait le mien. Eux aussi, ils sont potes. Leurs photos de soirée en attestent. Ce sont nos chroniqueurs. Ils sont avec nous comme chaque jour. Alors, lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, d'une obsession, souvent les siennes. David Cassello-Lopez.
Aujourd'hui, c'est un objet du quotidien, c'est un objet très simple et qui pourtant rend beaucoup service, c'est le grille-pain. Voilà.
Ah oui.
Depuis quand ça existe le grille-pain.
C'est ce matin, en beurrant vos tartines, vous êtes tiens, aujourd'hui je vais faire le grille-pain.
Exactement. Et moi, ça fait vraiment partie des objets que je suis triste de ne pas avoir quand ils ne sont pas là. Voilà.
Feu la reine Elisabeth II l'emportait ouais. Partout avec elle.
C'est vrai.
Oui, c'est important, sa bouilloire aussi. Et juste avant, comme dirait l'autre.
Mais aïe, quelle époque, mais aïe.
Oui, ça s'est passé dans le passé. C'est toujours présent dans le présent. Aujourd'hui, on remonte à l'époque du grand rêve américain des années 20 pour partir à la découverte d'un endroit mythique, Gavin.
Exactement, on va remonter. Le temps, on va remonter cette route qui va de Chicago à Los Angeles, on va remonter cette fameuse route 66.
Comme Johnny, vous savez, Johnny l'a fait.
Exactement.
Oui, oui.
D'autres encore, puis peut-être Dennis Hopper.
Je connais que Johnny. Mes aïeux, quelle époque. Ce sera tout à l'heure, vers 17h45. Et je vous disais, 120 ans après sa mort, on commémore la mémoire d'Émile Zola cet après-midi. Zola écrivain, Zola photographe. Et Zola, dans son intimité aussi, avec vous, Clémentine.
Oui, Stéphane, parce que les photos de Zola, où peut-on les voir notamment? Eh bien, c'est à Médan, dans sa maison, qui a été entièrement restaurée et réouverte au public depuis l'automne dernier, avec le label Maison des Illustres. Et il y a pratiqué la photographie, et on peut en voir certaines qui sont extrêmement touchantes, et je vais vous en parler.
Et il y aura aussi un quiz spécial Zola, Stéphane. Je ne sais pas si on vous a prévenu.
Oui. C'est l'assommoir.
C'est ça. Belle blague historien, l'assommoir, Zola. Décidément, vous êtes
la
très brillant, Stéphane.
La curée, plutôt, Stéphane.
Oui,
non
la curée, oui, c'est pas mal. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Il a écrit une œuvre qui a marqué à jamais l'histoire de la littérature et nos années de lycée également. Mais derrière l'écrivain se cache aussi un photographe. Alors qu'on commémore aujourd'hui les 120 ans de sa disparition, je vous raconte celui qui a eu le déclic de la photo dans les dernières années de sa vie, Émile Zola. Oui, il y a des passions qui se fixent très tôt dans son existence et d'autres que l'on découvre sur le tard. L'histoire d'amour entre Émile Zola et la photographie relève de la deuxième catégorie. En 1894, lorsqu'il s'offre son premier appareil photo, Zola a 54 ans et partage alors sa vie entre trois lieux. À Paris, loge dans son appartement de la rue de Bruxelles, dans le 9e arrondissement. Dans les Yvelines, il rejoint souvent Médan et la maison blottie entre les méandres de la Seine où règne son épouse, Alexandrine, sorte de façade bourgeoise d'une existence d'homme installé. Et puis, à 20 minutes à bicyclette de la demeure de Médan, il y a le 5 de la rue de Bazincourt à Verneuil, là où Zola a acheté une maison pour y loger sa maîtresse, Jeanne Rosereau, l'ancienne lingère de son épouse. Ce troisième lieu, c'est celui de sa vie cachée. Le discret repère des amours illégitimes de l'écrivain, le refuge où il se rend régulièrement pour passer un moment avec la mère de Denise et de Jacques, les enfants nés de cette union de la main gauche. Et dans ces trois lieux, Zola n'est pas tout à fait le même. À Paris, il est l'auteur célèbre, le chef de file du courant naturaliste, l'intellectuel engagé, qui ferraille jour après jour pour défendre ses convictions. À Médan, il est le mari qui, avec son épouse, accueille régulièrement son petit cercle d'amis. À Verneuil, enfin, il est l'amant de celle qu'il a conquise en 1888 et avec qui il découvre les joies d'une paternité qui n'est jamais venue dans son couple légitime. Paris, Médan, Verneuil, dans ces trois hauts lieux de la vie de Zola, une chose semble être, elle, immuable, la photographie. Une passion, une obsession même, qui occupe une place centrale dans la vie de Zola, centrale par le temps qu'il consacre d'abord, mais aussi par l'argent qu'il y dépense. À une époque où la photographie commence tout juste à passer des plaques de verre à la pellicule et où le plus petit des appareils photo pèse son poids, chaque tirage est une aventure. Le cliché lui-même n'est rien. Il faut ensuite s'enfoncer dans un laboratoire obscur où la chimie est reine pour n'en ressortir qu'après des heures en sentant l'acide et les sels d'argent. En cette fin de 19e siècle, la photographie est, vous l'avez compris, un loisir qui coûte cher et qui prend du temps. Un passe-temps d'homme aisé en somme. Et de fait, à compter de 1894, Émile Zola a davantage de temps libre qu'au cours des décennies précédentes. L'écriture l'occupe encore beaucoup, mais l'essentiel de son œuvre est déjà publié. Les Rougon-Macquart, ce cycle immense, commencé en 1871 avec La fortune des Rougon, s'est conclu un an auparavant, en 1893, avec le 20e et dernier tome, Le docteur Pascal. En un quart de siècle, Émile Zola a fait naître un ensemble hors du commun, un récit fleuve et ambitieux avec cette histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, pour reprendre le sous-titre de l'œuvre. Les Rougon-Macquart, c'est le tableau total d'une société tout entière, décrite avec une minutie et une précision que Zola veut presque médicale, je dirais même chirurgicale. En 20 romans, ce fils d'ingénieur italien qui a connu la gêne et n'a été naturalisé français qu'à 22 ans seulement, a pris depuis longtemps sa revanche sur une enfance à la fois libre et triste, entre la mort précoce de son père alors qu'il n'avait que 7 ans et les difficultés financières de sa mère. Il s'est imposé comme le chef du naturalisme, ce courant littéraire qui prétend refléter la réalité d'une société avec une rigueur de scientifique, sans rien cacher de ses luttes, de ses corruptions et de ses angles morts. En 1893, quand il met un point final à ce vaste tableau qui compte des chefs-d'œuvre comme L'Assommoir, Germinal ou La Bête humaine, le temps des difficultés financières est depuis longtemps derrière lui. Zola est un auteur célèbre, même s'il n'obtiendra jamais le siège dont il rêvait à l'Académie française, malgré ses 19 candidatures. Si les Rougon-Macquart disent quelque chose de Zola, c'est qu'il n'est pas le genre d'homme à se lancer dans un projet pour l'abandonner en route. Quand l'écrivain se fait photographe, c'est avec la même rigueur et le même sérieux que dans tout ce qu'il a entrepris. En une petite dizaine d'années, Zola prend plus de 3000 clichés. Et si l'auteur du Ventre de Paris a pu compter sur les conseils amicaux de son ami Félix Tournachon, plus connu sous le nom de Nadar, dont on a déjà parlé ici même dans cette émission, c'est surtout en autodidacte qu'il se forme. Comme Zola ne serait pas Zola sans un goût prononcé pour l'expérience et la minutie, il avance par essai, par erreur, en variant les réglages à la prise de vue d'abord, puis au moment du développement et du tirage. L'heure est aux plaques de verre, mais la pellicule est déjà là, et Zola s'y intéresse, comme il s'intéresse à d'autres techniques, du papier citrate à la cyanotypie, ce procédé qui permet d'obtenir de superbes monochromes d'un bleu profond. Zola tâtonne et consigne ses essais avec soin pour recommencer plus tard jusqu'à obtenir le résultat qu'il souhaite avec l'un des 10 appareils qu'il s'est procuré. Et si la photographie reste un violon d'ingres, un loisir intime qui lui sert aussi de bulle, à une époque où l'écrivain s'engage à nouveau dans le combat public, au moment de la très violente affaire Dreyfus, Zola en est convaincu. ce regard analytique et scrutateur, cet œil d'entomologiste qu'il pose sur le monde comme écrivain, on le retrouve en photographie. Il l'écrit d'ailleurs à un ami. « À mon avis, vous ne pouvez pas dire que vous avez vu quelque chose à fond si vous ne l'avez pas photographié. » Ce qui intéresse Zola dans la photo, pas l'argent en tout cas, jamais l'écrivain ne cherchera à publier ses images. Et pour cause. Pour l'essentiel, ces clichés touchent à l'intime. Il se photographie lui-même. Il s'intéresse aussi à son entourage, dans ses deux foyers. À Médan, son épouse et son cercle amical posent pour lui. À Verneuil, ce sont ses enfants et leur mère qu'il couvre de son objectif dans des portraits touchants de naturel. À une époque où les photographies sont souvent très posées, très mises en scène, Émile Zola ne s'encombre guère de décors. Le fond d'un jardin ou un simple drap jeté sur une tringle lui servent de décor. Parfois pourtant, le naturel revient au galop. Zola saisit le pouls de son époque en multipliant par exemple les clichés de voisins ou d'artisans ou en prenant des images de l'exposition universelle qui s'installe à Paris en 1900, dont certaines sont prises depuis le premier étage de la Tour Eiffel, achevée 11 ans plus tôt. Dans le privé, la photographie est désormais l'autre grande affaire d'Émile Zola, dans la dernière partie d'une vie qui s'arrête brutalement il y a 120 ans jour pour jour, le 29 septembre 1902, lorsqu'une cheminée bouchée l'asphyxie aux côtés de sa femme Alexandrine dans leur appartement parisien. Alexandrine en réchappera, pas lui. Émile Zola est tué dans ce qui est peut-être autre chose qu'un accident tragique. Rien n'est tranché avec une absolue certitude. Mais Zola a peut-être payé de sa vie son dernier grand combat public. Cette autre grande affaire de son existence. Le combat en faveur du capitaine Dreyfus, accusé à tort d'avoir trahi l'armée française. C'est le fameux « J'accuse » lancé au président Félix Faure à la une de l'Aurore, le journal de Georges Clémenceau. Et c'est le combat d'un homme qui s'est mis tout entier au service d'une conviction qui conclut cet article célèbre « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ». Le lendemain de sa mort, la presse antisémite exulte. Les défenseurs de Dreyfus, eux, pleurent un homme engagé. À ses funérailles, Anatole France, un autre grand écrivain, aura ces mots « Envions-le ». Il a honoré sa patrie et le monde par une œuvre immense et par un grand acte. « Envions-le ». Sa destinée et son cœur lui firent le sort le plus grand. Il fut un moment de la conscience humaine. Et aujourd'hui encore, il reste des écrits pour le prouver, et des photos aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Émile Zola avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un historien de la littérature, éminemment spécialiste de son œuvre. Bonjour Alain Pagès.
Bonjour.
Alain Pagès, le grand public a découvert la passion de Zola pour la photographie à la fin des années 1970 lors de la publication d'un recueil de ses clichés intitulé « Zola photographe ». Ce recueil, c'est son petit-fils, n'est-ce pas, qui en a eu l'idée. Qu'est-ce qu'il y dévoile ?
Alors ce recueil, en effet, c'est le premier livre, c'est le corpus Zola photographe qui paraît. Il y a à peu près 500 photos et au fond, c'est un panorama très complet de ce que Zola a photographié. Vous l'évoquiez d'ailleurs à l'instant, il y a Médan, il y a les amis, il y a ces très belles photographies de l'exposition de Paris 1900. Il y a aussi ce Paris dans lequel il vit, le Paris du 9e arrondissement. Et puis, il y a de très belles photos prises lors de son exil en Angleterre. Au fond, voilà, on avait 500 photos, à peu près tout. Et aujourd'hui, on a la chance, grâce à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine qui a recueilli l'ensemble des photographies de Zola, de disposer d'un corpus considérable, 2000 photos.
Avant que Zola ne se passionne pour la photographie, quelle place avait-elle dans son œuvre littéraire ? Est-ce qu'on croise des personnages photographes ou des gens photographiés ?
Très peu en réalité. Il y a quelques allusions à la photographie dans les romans de Zola. Je pense à une scène de la curée qui est assez étonnante. Vous connaissez les deux amants de la curée, Maxime et René. À un moment, ils s'ennuient, ils feuilletent un album de photographies qui représente des personnages qu'ils connaissent. Et alors, ce qui les intéresse dans la photographie, quand ils scrutent les visages, ce sont les défauts des visages, les rides, les poils sur le nez. Au fond, voilà, la photographie, elle révèle une sorte de vérité cruelle que, bien sûr, la peinture ne peut pas montrer.
Clémentine.
Oui, Zola a été très proche du mouvement impressionniste, Manet, Pissarro, Renoir. Il les a constamment défendus dans ses chroniques. Est-ce que la fréquentation de ces peintres a pu avoir une influence sur sa propre façon de photographier ?
Sans aucun doute. Il y a un décalage temporel. C'est le Zola jeune, le Zola qui a 25 ans, qui défend Manet, qui est d'ailleurs l'ami de Cézanne, qui évidemment est passionné par la peinture. Mais je crois qu'il aura appris quand beaucoup plus tard, à l'âge de plus de 50 ans, comme vous le disiez, il se lance dans la photographie. Je crois qu'il aura appris, grâce au peintre, au fond, la technique, le cadrage, le regard particulier. Il a, je dirais, pénétré dans l'atelier des peintres et c'est ce qui lui permettra, à son tour, de pénétrer dans le laboratoire de la photographie.
Défenseur des impressionnistes, chef de file du mouvement naturaliste, grand passionné de cette nouvelle technique qu'était la photographie, Zola était en fait éminemment moderne pour son époque.
Bien sûr, c'est une façon de voir le réel. Il y a de l'intime, comme vous le disiez, dans ses photographies, mais moi, ce qui me fascine, c'est surtout cette capacité qu'il a à faire véritablement une sorte de reportage curieux de ce qu'il peut voir. Je pense à ce Paris qu'il a photographié. Je pense aussi à ces extraordinaires photographies de l'Angleterre. Il est seul, il est en exil. Il pense même à un moment qu'il ne reverra jamais la France. Et il a ce regard attentif sur cette vie quotidienne des Anglais qui l'entourent à Londres. Un regard sympathique, un regard affectueux.
Avant de maîtriser lui-même l'appareil photo, Zola a été immortalisé à plusieurs reprises, notamment par son ami Félix Tournachon, alias Nadar, celui qui a photographié le tout Paris dans cette seconde moitié du 19e siècle. Qu'est-ce que Nadar lui a appris ?
Alors effectivement, Nadar l'a photographié dans son atelier. D'ailleurs, il y a une belle photographie, on le voit derrière un bureau, mais c'est le bureau décor de l'atelier Nadar. Il a aussi bénéficié des conseils du fils de Nadar, de Paul Nadar, qui reprend l'atelier de son père à partir de 1890. Eh bien, je crois que Nadar lui a montré effectivement la complexité de la technique photographique, l'a engagé à avoir non seulement un, mais plusieurs appareils photographiques. Et puis, je crois qu'il l'a conduit vers l'idée du laboratoire, c'est-à-dire de la nécessité de révéler lui-même les photographies, de les développer lui-même.
C'est ça qui, à votre avis, l'intéressait dans ce qui était d'abord une technique avant de devenir un art ?
Moi, je crois que ce qui l'intéressait, c'est l'essai. Au fond, un peu aussi comme il a pu voir des essais impressionnistes, ce qui l'intéresse, et quand on regarde aujourd'hui ces photographies que l'on connaît de façon beaucoup plus complète qu'on ne les connaissait autrefois, c'est de voir que sur un sujet, il est capable de faire 4, 5, 6 clichés. Au fond, c'est la tentative qui l'intéresse.
On a beaucoup photographié Zola, mais il s'est beaucoup photographié lui-même. Qu'est-ce qu'il voulait montrer de lui sur ses photos ? Et d'ailleurs, quels sont les motifs et les poses qui reviennent ?
Alors, il est derrière son bureau, il est méditatif. Il y a en effet des photographies qui le montrent en écrivain. Je pense à une très belle photographie, on évoquait Nadar, mais je pense à une photographie de Paul Nadar qui le montre en train d'attendre, au fond, dans une sorte de commentaire de la conclusion de J'accuse. Voilà le Zola qui se photographie lui-même. Il y a aussi une belle photographie où on le voit en photographe, vêtu d'un tablier et en train de regarder le liquide qui va lui permettre de révéler la photographie.
Mais est-ce qu'il y a une mise en scène de sa part ? Est-ce qu'il veut s'immortaliser lui-même ? Est-ce qu'il prend la pose, par exemple, de « moi, Zola écrivain, Zola qui... » Est-ce qu'il y a de sa part, en tout cas, la volonté de laisser quelque chose pour la postérité ?
Sans doute, la pose, il la connaît. Il y a ce grand tableau que Manet a peint de lui longtemps auparavant, où il pose, et d'ailleurs, il a laissé sur la notion de l'attente et de la pose des remarques tout à fait intéressantes, en pensant que quand on pose, au fond, on songe à la vérité, à la justice. Il a déjà ces mots-là quand il pose devant Manet, et c'est sans doute un peu la même réalité qu'il recherche quand il pose lui-même, quand il s'autoportrait, mais il adore également peindre ses amis, enfin peindre, voilà, photographier ses amis, les faire jouer, jouer à des sortes de jeux dans le jardin de Médan. Il y a une théâtralité de la photographie chez Zola qui est tout à fait extraordinaire.
Clémentine ?
Oui, Zola a beaucoup photographié ses enfants Jacques et Denise, issus de ses amours avec sa maîtresse Jeanne Rosereau. Toutes ces photos sont très touchantes et d'autant plus touchantes qu'ils sont le fruit d'amours adultérines, en somme, ces enfants, dans une époque où la société réprouve plus ou moins ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que l'intensité, la façon dont il a photographié ses enfants, il les a tellement mis en scène, c'était une façon de les valoriser ou d'immortaliser ce lien avec eux, alors qu'il n'était pas très, très autorisé, en fait ?
Eh bien, ce sont d'abord des photographies d'un père qui aime ses enfants, qui les regarde. Je pense aux photographies de Denise, sa fille, vue de profil, qui sont magnifiques. Et bien sûr, dans ces photographies, c'est pour Zola la façon d'essayer de capter cette famille qu'il ne voit que de temps en temps, avec laquelle il ne peut pas vivre réellement. Seuls quelques moments, au fond de la journée, lui sont accordés. C'est, oui, une façon de vivre en famille, finalement. C'est ce que la photographie lui apporte. Dans le jardin de Verneuil, où l'on voit Zola photographier les jeux de ses enfants, ou bien même au jardin du Luxembourg, quand il photographie Denise et Jacques.
C'est incontestable, Zola était un très grand écrivain, peut-être l'un des plus grands de la littérature française, mais est-ce qu'on peut dire qu'il était aussi un grand photographe ?
Alors je crois qu'on peut parler aujourd'hui de l'œuvre photographique de Zola. Encore une fois, on l'a connu il y a quelques années avec 500 photos. Aujourd'hui, on peut en voir 2000, 1500, je le répète, plus 500 qui ont été restaurés récemment par la médiathèque de l'architecture du patrimoine à laquelle il faut rendre hommage. Et cette œuvre considérable qui fonctionne par série, par groupe, par thème, bien sûr, peut être qualifiée d'œuvre photographique parce que dans tous ces clichés, il y a la recherche du cadrage, de la symétrie, du jeu entre le premier plan et l'arrière-plan. Au fond, voilà, il y a un regard qui était le regard du romancier et qui, dans ces quelques dernières années de la vie de Zola, elles sont courtes finalement, devient le regard du photographe.
Est-ce que ça pourrait faire l'objet d'une grande exposition Maison de la photographie ?
Oui, bien sûr. Il y a déjà eu plusieurs expositions de Zola photographe. D'autres sont en préparation. Et sans aucun doute, ce sont des expositions qui vont se poursuivre.
Merci beaucoup Alain Pagès de nous avoir raconté une autre facette d'Émile Zola qu'on peut donc découvrir à la médiathèque du patrimoine et de la photographie à Paris. Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Dans l'intimité de l'histoire.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoine, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre, et celle qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret, Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, à l'occasion des 120 ans de sa disparition, on continue à parler d'Émile Zola. Émile Zola, dont vous avez poussé les portes de la maison, bon, sans qu'il vous y ait autorisé. En même temps, elle est un peu ouverte au public maintenant.
Bien sûr, elle est ouverte à tous et je vous encourage chaleureusement à vous y rendre. C'est vraiment une visite extrêmement touchante de voir l'endroit où cet homme a composé, a écrit tant d'œuvres qui ont enchanté notre enfance, notre jeunesse. Émile Zola a acheté cette maison en mai 1878, justement grâce au succès d'un de ses livres, L'Assommoir. Et il écrit alors à son ami Gustave Flaubert : j'ai acheté une maison, une cabane à lapins entre Poissy et Triel, dans un trou charmant au bord de la Seine, 9000 francs. Bon, je vous dis le prix pour que vous n'ayez pas trop de respect. La littérature a payé ce modeste asile champêtre. Un asile champêtre, alors il faut voir ce que c'est devenu par la suite. Il y a fait des travaux absolument considérables. En quelques années, il a acheté toutes les alentours. Sa propriété est passée de 1600 à 42 000 mètres carrés. C'est très important comme propriété. Il a même acheté une île, et au milieu d'une île plus exactement, un terrain sur lequel il a fait construire un petit chalet qu'il a baptisé le Paradou, et pour se rendre au Paradou, pour aller pique-niquer, il y a une petite barque qu'il a baptisée Nana. Donc son œuvre est absolument partout, ses personnages, y compris dans le patronyme des lieux. Et évidemment, et comme il s'agrandit, il prévoit une ferme, une maison pour son jardinier, et puis une serre pour ses fleurs, parce qu'il aime beaucoup les fleurs, il en a également beaucoup photographié. Dans sa maison, c'est lui qui s'occupe de la décoration intérieur. Il conçoit le mobilier, le décor. Il y a un salon billard avec des vitraux symbolistes, multicolores, absolument magnifiques. La salle de bain et la cuisine sont équipées. Enfin, c'est vraiment dernier cri. Il y a une douche chaude dans la salle de bain et les murs sont entièrement recouverts de magnifiques carreaux bleus et blancs. C'est tout ça, c'est dans un goût absolument exquis. Alors, comme le disait notre invité, il y reçoit beaucoup. Cézanne, le peintre, avant leur brouille, l'ami d'enfance, Cézanne, Manet, Pissarro, Goncourt, les Daudet, Huysmans, il y a toujours du monde à Médan. Mais évidemment, quand on visite Médan, ce qui nous touche le plus...
C'est très bizarre comme phrase, quand on visite Médan.
Oui,
c'est un peu étrange.
Quand on visite Médan, c'est l'acropole. Mais quand on visite Médan chez Zola, alors ce qui retient toute notre attention, bien sûr, c'est l'endroit, le lieu où il a écrit ses chefs-d'œuvre. Et comment un homme qui a les moyens d'aménager le bureau de ses rêves, qu'en fait-il? À quoi ressemble-t-il? Alors, la grande surprise, à mon avis, c'est le style qui est totalement de l'époque, et le style troubadour. Mais pour ma part, je ne m'attendais pas du tout à voir dans le bureau de Zola épinglé au mur des armures médiévales. Je n'imaginais pas tellement que ce soit son style. Et bien pourtant, si, c'est ce style de troubadour. Devant lui, devant son immense bureau, une très grande verrière, mais qui est agrémentée de vitraux de couleur, parce qu'en réalité, il a prévu d'être un peu sous les toits et face à la nature, mais il ne veut pas la voir parce qu'il ne veut pas être dérangé par quoi que ce soit pendant qu'il écrit. Donc, il y a ces vitraux de couleur qui l'empêchent que son attention soit captée par le mouvement des branches à l'extérieur ou quelque chose comme ça. Et bien sûr, au-dessus de la monumentale cheminée, sa devise que je parodiais tout à l'heure, nous la dies sine linéa, pas un jour sans une ligne. Alors, bien sûr, l'occasion se présente naturellement de pouvoir admirer un certain nombre de ses photographies. Il a possédé jusqu'à 8 appareils photo. Il a essayé toutes les techniques, vous le racontiez, Stéphane. Et puis, certainement, nous le disait notre invité, son amitié pour les impressionnistes a influencé sa façon de photographier. Cézanne, certainement une influence, mais ils se sont brouillés définitivement en 1886 parce que Cézanne a cru se reconnaître dans le personnage du peintre raté dans l'œuvre. Alors, de ce jour-là, ils ne se sont plus adressés la paroles ne se sont plus jamais vues. Les photos, moi, ce qui m'a le plus touché dans toutes ces photos exposées à Médan, ce sont les photos de Zola quadragénaire, de le découvrir encore jeune, replet, allongé dans l'herbe, jouant avec son chien. Il y a une photo, il a une pose comme ça, je pense, une pose tellement typique de l'homme qui s'endort dans la nature, en se tenant la joue et jouant avec son petit chien qui doit être un fox terrier. Quelque chose comme ça, je pense. Hein. Je n'y connais pas grand-chose. Vous pourriez me le dire, ça, Stéphane. Et puis, les photos les plus fortes aussi, peut-être celles de son épouse, et qu'il a réalisées alors qu'il mène une double vie. Il la trompe depuis fort longtemps. Mais jusqu'au bout, il lui conserve toute sa tendresse. C'est une photo d'elle où il écrit « À ma chère femme, à ma compagne de 30 ans de ménage, bien tendrement, le photographe Émile Zola. » C'est une photo de novembre 1901, Zola meurt moins d'un an plus tard, le 29 septembre 1902. Et alors, il y a cette photo incroyable, c'est une sorte de montage. Il a mis un exemplaire de chacune de ses œuvres traduite dans une langue différente et trônant sur cette pile de livres, une photo de lui, petit garçon, avec son père. C'est une photo qui ne le quittait jamais. C'est un père qui l'adorait. Et donc, vous l'avez dit, Stéphane, qu'il a perdu.
Il est mort quand il avait 7 ans.
Exactement. Et donc, c'est une façon de dire toutes ses œuvres traduites et la photo. Voilà, papa, regarde. Tu ne m'as pas vu faire, mais regarde, j'ai réussi et mes œuvres sont éditées de par le monde. Et si vous regardez la photo de Zola sur son lit de mort, il n'y a aucune décoration dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de son lit? Juste une photo. Et cette photo, c'est justement cette photo de lui avec son père. Alors vraiment, cette visite de Médan, je vous encourage à y aller. C'est une maison merveilleuse.
La scénographie de la partie moderne de la maison, dans laquelle il y a... On peut revoir tout sur l'affaire Dreyfus.
Bien sûr, c'est la nouveauté. C'est le musée de l'affaire Dreyfus, absolument passionnant. Non, vraiment, c'est une plongée bouleversante dans l'intimité d'un de nos plus grands génies.
Merci beaucoup, Clémentine. À suivre, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, je ne contrôle plus rien, chers auditeurs. C'est le quiz Born to be Alive. On m'a dit hier que ce serait un quiz spécial Zola. Mais j'ai pas eu le temps de tout relire. Moi. Vous avez eu le temps de tout relire,
Zola ?
Moi, j'ai
tout relu de A à Z.
En une soirée.
Des Dames, Germinal, tout ça. J'ai passé la nuit, je suis au taquet.
Alors, rassurez-vous, moi, j'ai relu les trois premières lignes de sa page Wikipédia pour écrire les questions. C'était bien suffisant. C'est parti.
Ah ben, ça va voler où, alors ?
Oh, je crois que c'est un quiz cadeau de la maison.
Ah bon.
Vous êtes tous les deux des spécialistes d'Émile Zola. Vous venez de le prouver juste avant. Normalement, ça va être très tranquille pour vous. Je ne sais même pas pourquoi on fait ce quiz. Alors, une question pour Stéphane. On va vérifier quand même ses connaissances. On va commencer par la fin. 1902, c'est l'enterrement d'Émile Zola. Dans le cortège, une délégation de militaires reconnaissant de l'engagement de Zola en faveur de Dreyfus scande « Dreyfus, Dreyfus, Dreyfus ». Je ne suis pas sûr que c'était sur ce ton-là, mais vous avez l'idée globale. Parmi tous ces gens qui scandaient Dreyfus, 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 il y avait Laborie, Picard et Clémenceau. Vrai ou faux ?
Clémenceau, Laborie, Picard en train de crier.
Non.
C'est plutôt ses adversaires.
Les adversaires qui ont tiré. Je dirais non.
Vous diriez non ?
Oui, je dirais non.
D'accord. Vous avez été un peu influencé par Clémentine. Méfiez-vous de Clémentine, elle vous veut du mal.
Je ne vois pas pourquoi. Pour les funérailles de Zola,
oui, moi je les
soutiens
pas en train de
Dreyfus,
Dreyfus
auraient, oui. auraient se seraient manifestés de façon aussi sonore, voilà. Alors qu'au contraire, je crois qu'il y avait des gens qui reprochaient à Zola d'avoir défendu Dreyfus, qui ont crié plus fort, à mon avis.
On vérifie.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, mais en fait, ça ne s'est pas passé pendant l'enterrement de Zola. Mais pendant l'enterrement de Zola, il y a eu une délégation de mineurs venus de Denain, près de Valenciennes, qui ont accompagné le cercueil en criant « Germinal, oui. Germinal ».
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Une question maintenant pour Clémentine. Vous savez peut-être, Zola avait ses petits troubles obsessionnels compulsifs, des TOC.
Non, je l'ignorais.
Il était anxieux, agoraphobe, il aimait les multiples de 7, détestait le chiffre 17. Voici donc ma question. Dès qu'il voyait un bec de gaz, il le touchait par superstition. Vrai ou faux ?
Alors là, je l'ignore absolument. S'il a eu des troubles obsessionnels compulsifs, il est vrai que vérifier que le tuyau du gaz soit fermé pourrait en faire partie. En même temps, il est mort asphyxié, donc ça serait un signe du destin absolument tragique.
Vous avez des détox, vous ?
Non, pas ce genre-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, on pourrait toucher les sorties de gaz, parce que vu le prix...
Oui, c'est ça.
Pour les briquets, oui.
C'est mon précieux.
Alors, est-ce qu'il pouvait toucher les becs de gaz et où avait-il l'occasion d'en voir ? Dans sa cuisine, à Médan.
Si, peut-être à Paris, oui, rue de Bruxelles.
Non, ça ne me plaît pas, cette histoire. Je trouve que c'est... C'est l'anecdote qui est quelque chose de trop tragique et tiré par les cheveux. Il caressait des becs de gaz et il est mort asphyxié.
Enfin, non,
ça me plaît pas.
Je n'ai pas dit qu'il caressait des becs de gaz, que là, c'est un peu psychopathe. Ouais. Mais en tout cas, dès qu'il croise un bec de gaz, il le touchait.
Non, ça ne me plaît pas, votre histoire. Non, non, non.
Non, du tout ?
Non, non.
Vous êtes sûr ?
On verra bien.
Si je vous rajoute un bisou, quelque chose ? Non,
non, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas, cette histoire.
Bon, ça ne vous plaît pas. Écoutez, on écoute la réponse.
Vous avez... Perdu.
Donc il touchait les becs de gaz.
Enfin, en tout cas, dès qu'il croisait un bec de gaz, il le touchait par superstition. Il y a des choses comme ça. Et il avait d'autres superstitions, d'autres tocs. Quand il se réveillait la nuit, il ouvrait 7 fois les yeux. Ça le rassurait. Quand il franchissait un obstacle, c'était toujours du pied droit. Et quand il sortait de chez lui, c'était du pied gauche.
Vous saviez tout ça, Stéphane ? Je ne connaissais pas du tout le caractère
et c'est là où
obsessionnel
j'interviens.
De Zola.
Une question maintenant pour Stéphane. Pour l'instant, Stéphane qui mène la danse.
Ça va
un
pas durer.
Point à zéro. 18 juillet 1879, nous sommes à Paris, au théâtre de la Porte Saint-Martin, et c'est la première de L'Assommoir d'Émile Zola. Il faut quand même avoir le moral ce soir-là. Considéré comme le père du naturalisme, la pièce de théâtre étonne par son réalisme, et ça va très loin. Les acteurs ne doivent pas simuler. Ainsi, l'actrice incarnant Gervaise Macquart et l'acteur jouant l'amant Auguste Lantier ont fini ensemble alors qu'ils étaient déjà tous les deux en couple. L'actrice enceinte a même dû interrompre les représentations. Est-ce que c'est vrai tout ça ou est-ce que c'est faux ?
Eh ben moi, j'ignorais même que l'assommoir ait donné lieu à une pièce de théâtre, voyez-vous. Donc là, j'en suis pas.
Ça me plaît bien, là, l'idée.
Elle est bien, l'idée.
Ouais, l'idée
à force
se
de mimer l'amour sur scène, ils sont tombés amoureux.
Ouais, je trouverais que ça serait formidablement romantique. J'ai envie d'y croire, je dirais oui.
Mais ça, c'est votre cœur tendre qui
parle.
Oui,
absolument. Mais je préfère, quitte à se tromper, au moins que ce soit pour une bonne cause.
Écoutez, on écoute la réponse.
Vous savez... perdu.
Je suis vraiment désolé parce que vous aviez l'air tellement enthousiaste.
Ah oui, j'aimais bien votre histoire.
Non, mais enfin, il y avait du naturalisme. Il voulait beaucoup de réalisme dans la pièce, mais ce n'était pas ça. C'était pas les acteurs n'ont pas été obligés de se mettre en couple ensemble. Par contre, des femmes devaient se jeter des seaux d'eau froide sur scène. Mmh. Chose qu'elles faisaient tous les soirs. Elles avaient des combinaisons de plongée sous leur costume pour ne pas prendre froid.
Eh bien.
Ce qui veut dire que Clémentine va peut-être pouvoir égaliser.
Mais oui.
Attention, c'est la question 4. Pour écrire Germinal, Zola est descendu à la mine. Pour écrire La Bête humaine, il a pris une locomotive à vapeur. Et pour écrire Nana, il a visité une maison close. Vrai ou faux ?
Écoutez, si la question est monolithique, je pense que la réponse est oui, parce qu'il me semble bien, en effet, qu'il est allé dans les mines du Nord pour écrire Germinal. Donc là, oui, je réponds oui.
Vous répondez oui, vous avez l'air sûr de vous.
Non, mais je
sais. Vous pas
alors, est-ce qu'il est descendu dans la mine ? Ça, peut-être pas, mais qu'il soit allé. Il me semble qu'il s'est baladé, qu'il a été, à moins que je confonde avec Victor
Ce
Hugo, qui a été à Lille.
Dans les maisons closes. Hein.
Justement, on en parlera tout à l'heure, Stéphane, de votre biographie.
Est-ce qu'il a été dans les maisons closes ? Les maisons closes, ça me paraît plus curieux, mais.
C'est plus facile. C'est plus facile quand même.
D'aller à la mine. Moi, je pense que il était homme à vouloir se documenter de façon très précise.
C'est ça,
précise.
De l'immersion.
Moi, je serais tentée de répondre oui. Je sens que vous voulez que je réponde non pour que j'ai un point pour faire la dernière question, mais c'est contre mon intuition.
Donc vous répondez oui.
Je réponds oui.
Elle répond oui, on vérifie.
Vous avez gagné.
Ah, bon, voilà, très bonne intuition. Et non, je voulais que vous ayez une bonne réponse. Hein. Ne vous méprenez pas. Alors pour les trois, la maison close visitée était le Chabanais, situé dans le 2e arrondissement de Paris, au numéro 12 de la rue Chabanais. Et d'ailleurs, si vous y allez, dites Stéphane Bern, vous aurez 20% sur les consommations.
Dites, Edward the Seventh,
Edward VII.
Vous serez beaucoup mieux accueilli.
Oui, en même temps, si les gens l'ont fréquenté, ils ne doivent pas être très très frais non plus. Hein. Ça fait un partout, évidemment.
Qu'est-ce venu son fauteuil ?
C'est Dali, je l'avais raconté cette histoire, oui, l'histoire du Chabanais. C'est Dali qui l'avait récupéré. Et aujourd'hui,
il est où le fauteuil ? Il avait un fauteuil pour les petites gâteries, parce qu'il était peu imposant.
Parce qu'il n'était plus capable de satisfaire. Si vous voulez, il ne pouvait plus faire beaucoup d'efforts physiques. Donc il s'est fait faire une chaise absolument extraordinaire qui lui permettait d'abord d'insérer sa bedaine en premier lieu et de rester debout. Un fauteuil capitonné, enfin un chef-d'œuvre d'ébénisterie qui a été fait, je crois, dans le Faubourg Saint-Antoine, par un des plus grands ébénisteurs.
On ne sait pas qui l'a. Si vous avez le fauteuil d'Edouard VII pour le bordel, le Chabanais.
Excusez-moi, Stéphane, mais il y a un besoin de votre côté ou...
Non, pas du tout. Mais c'est une curiosité historique. Ça m'intéresse de le voir.
Il a été racheté par Salvatore Dali et qu'il avait dans son hôtel, me semble, sa chambre d'hôtel à un certain temps. Mais où est-il ? Il a été racheté par un antiquaire. Si, on sait où il est.
Je vais appeler Sophie d'avant. Je pense qu'elle doit savoir. Elle doit savoir avec affaire conclue. On va le retrouver, ce fauteuil. Ça m'intéresse aussi. Une question pour vous départager. Je ne sais pas si vous connaissez cet article qui s'appelle J'accuse.
Mm-hmm.
Ouais, bizarrement, oui. Donc, J'accuse est le titre d'un article d'Émile Zola paru dans l'Aurore le 13 janvier 1898. C'est une lettre ouverte adressée à Félix Faure, le président de la République française. Ma question. Depuis combien de temps, au moment de la publication de l'article, le quotidien existait ? Celui qui se rapproche le plus, évidemment, aura gagné.
L'Aurore, donc.
Oui. L'Aurore,
depuis quand existe l'Aurore ? Moi, je dirais qu'il existait depuis 2 ans.
Depuis 2 ans. Vous pouvez être très précis, vous pouvez aller même jusqu'au jour, jusqu'au mois.
Oui, moi, je dirais 8 mois.
8 mois. Clémentine, vous restez sur 2 ans ?
Comme c'est parfaitement intuitif, je vois pas pourquoi je changerais. Oui, 2 ans.
Ça vous a porté chance d'avoir votre intuition ? Eh bien, pas cette fois-ci. C'est Stéphane qui remporte ce quiz. Puisque la bonne réponse, c'était 3 mois et 13 jours.
Ah oui.
L'aurore année, le 1er octobre 1897. Le journal avec le célèbre J'accuse est le numéro 87.
Ah bien. Comment très ça intéressant. Se passe?
Est-ce qu'on doit faire une hola pour fêter cette
ah,
victoire
et... Si,
il mérite, Bon, vous la verrez pas, mais on l'a fait. Oh,
merci beaucoup.
Vous serez le plus grand roi du monde.
J'ai vu s'ouvrir le mur de Berlin.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Madame, vous avez entendu parler de la fusée lunaire. Est-ce que vous y croyez?
L'art est un monde qui n'a rien à voir avec la réalité.
L'hyperphosphorescence, c'est de la physique.
Stéphane Bern.
Et je ne suis évidemment pas seul, ils sont trois, ils sont avec moi. Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez et notre globe-trotteur de l'histoire aujourd'hui, Gavins Clemente-Ruiz. Et ceux qui n'auraient jamais pu se croiser mais qui ont un point commun. C'est bien pour cela d'ailleurs qu'on les a réunis cet après-midi. Nos trois personnages du jour qui ont eu le déclic de la photo.
La photo.
Oui, Camélia, oui, c'est bien ça, la photo. Ils en ont fait sans en faire leur métier premier. Hein. Après l'écrivain photographe Émile Zola, je vous raconte l'acteur photographe Dennis Hopper, qui a fait d'Hollywood sa cour de récré et a tout photographié, mais alors vraiment tout. Quant à vous, Jean-Luc, vous allez nous raconter à votre manière, comme chaque jour, le vivant de l'étape. Un vivant et un ami aujourd'hui.
Ah non, Stéphane, j'ai déjà fait le portrait d'Emmanuel Macron.
Non, je ne parle pas de lui, je parle d'un véritable ami dans la vie.
Ah d'accord, ok. Alors je vais vous parler d'un animateur presque aussi connu que vous, Stéphane, qui aime photographier les mains, les maris, qui en disent beaucoup sur la vie des papis, des mamies. Nikos Aliagas.
Ça sera juste avant 17h30. Et dans la dernière partie de l'émission, vous retrouverez, chers auditeurs, deux êtres qui en disent beaucoup sur eux aussi. Avec vous, Gavins Clemente-Ruiz, on part à la découverte d'un lieu historique. Vous nous ramenez aujourd'hui au début des années 20 aux États-Unis pour évoquer avec nous la fameuse Route 66.
Exactement, on va faire près de 4000 km, tout ça en moins de 5 minutes. Ça va être assez impressionnant.
Bah oui, je préfère... qu'être à moto sur la fameuse route.
Je vous verrai bien, moi,
ça vous irait bien. Ouais.
Je suis sûr que vous êtes un biker.
Non, j'ai jamais. Non, j'ai peur. Et David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines de votre objet fétiche.
Oui, tout à fait. Ça s'appelle le grille-pain.
Le grille-pain.
Ça permet de griller le pain.
Oui, de faire des toasts.
On apprend des choses quand même.
Exactement.
On se demandait à quoi ça servait ce truc-là.
Je suis allé au fond du sujet.
Mais qui a eu l'idée de faire un grille-pain?
Exactement.
On le saura tout
dirai.
À l'heure. Rendez-vous donc en fin d'émission. Mais pour l'heure, je vous raconte notre deuxième personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Un hors-la-loi du cinéma américain, un bad boy aussi excessif que talentueux. Si la presse a joué du cliché, lui en a joué aussi, mais pour de vrai. Il est un brillant photographe qui a trompé son monde au cinéma et montré le vrai dans ses photographies. Je vous raconte un acteur qui a eu le déclic de la photo à Hollywood, Dennis Hopper. Nous sommes à la fin des années 1950 en Californie, la nouvelle terre promise de l'Amérique. C'est là, à San Diego, que le jeune Dennis découvre la photographie. Dennis Hopper a 16 ans. Il a quitté avec ses parents le Missouri et où il a grandi. Il est désormais au lycée quand un enseignant lui fait découvrir le travail du français déjà connu dans le monde entier, Henri Cartier-Bresson. Pour le teenager, fils de postier et d'enseignante, déjà passionné de théâtre qu'il est alors, c'est une révélation. J'ai été bluffé par le mouvement. J'ai compris qu'il était possible d'attraper tout ce qui bouge, confiera-t-il. Ce n'est pas derrière l'objectif d'un appareil photo que Dennis Hopper démarre sa carrière, pas plus que devant d'ailleurs, même s'il aurait pu devenir mannequin avec son beau visage aux yeux clairs. C'est vers le cinéma qu'il se tourne, mais pas dans n'importe quel film, ni avec n'importe qui. En 1955, Dennis Hopper joue aux côtés de Natalie Wood et de James Dean dans La Fureur de Vivre, le film culte d'une jeune génération qui n'en peut plus de la morale puritaine et du carcan moral dans lequel on veut la maintenir. Dennis Hopper n'a pas été casté pour rien. À l'écran comme à la scène, c'est un écorché vif de 19 ans. Et la mort accidentelle de son ami James Dean ne va rien arranger. Son comportement, ses frasques et son rapport problématique à l'autorité passe mal auprès des studios. En dépit d'un talent d'acteur que personne ne remet en cause, Dennis Hopper est persona non grata à Hollywood, à quelques exceptions près. Et comme il faut bien que sa fureur de vivre à lui s'exprime, c'est vers la photo qu'il se tourne avec un Nikon à focale fixe, son 35 mm fétiche. Pendant 10 ans, Dennis Hopper photographie comme il respire, sans y songer ou presque, avec une technique qui lui permet de ne plus penser qu'à son cadrage. Pendant 10 ans, il documente ainsi l'Amérique des 60s. Une Amérique qu'il traverse et qu'il avale avec un appétit d'ogre. On recense la bagatelle de 18 000 clichés au moins, presque toujours en noir et blanc. C'est beaucoup à une époque où, évidemment, la photo numérique n'existe pas et où tout se fait en argentique. Et comme Dennis Hopper se fiche royalement de classer quoi que ce soit, l'ampleur de son œuvre provoque encore aujourd'hui de beaux casse-têtes chez les collectionneurs quand il s'agit de dater ou de situer certains de ses clichés. Quant à ce qui intéresse Dennis Hopper, difficile de faire plus varié. Devant son objectif, on retrouve bien sûr des grandes figures d'Hollywood, des proches comme Paul Newman, Bill Cosby ou Jane Fonda, mais aussi des chanteuses comme Tina Turner qui l'immortalise sur la couverture de l'album River Deep, Mountain High en 1966. On retrouve aussi des géants du pop art comme Roy Lichtenstein ou Andy Warhol, ou des plasticiennes comme Niki de Saint-Phalle, mais sans jamais tomber pourtant dans la célébration des Happy Fews. À travers ces images, ce n'est pas le glamour des tournées de promotion que Dennis Hopper montre, mais la normalité, le quotidien de ces stars mondiales photographiées sans apprêt, au détour d'un couloir, à l'arrière d'une voiture ou près d'un barbecue bon enfant. Mais Dennis Hopper est loin de se limiter à son cercle d'amis. Engagé auprès des mouvements de défense des minorités, il saisit aussi la bataille pour les droits civiques, la dureté de la vie urbaine, et les traces de la guerre des gangs dans les quartiers des grandes métropoles américaines, ravagées par la pauvreté, le crime et la drogue. À l'inverse de Zola, son travail de photographe est tout, sauf un violon dingue. Banni d'Hollywood, Hopper se tourne vers le monde de l'art et des galeries, expose régulièrement et publie ses photos dans les magazines les plus prestigieux, à commencer par Vogue. Sa photo la plus célèbre est sans nul doute Double Standard, un cliché en noir et blanc pris à Los Angeles, et publiée en 1961. Elle montre un carrefour de Los Angeles avec ses grands panneaux publicitaires, une station-service et deux longues avenues qui s'écartent en biais. La simplicité du cliché n'est qu'apparente pour une construction bien plus complexe, avec une longue perspective et des lignes de fuite soulignées par les fils électriques, mais contrebalancées par le reflet de la voiture qui suit celle de Hopper et qu'on aperçoit dans le rétroviseur. L'image en dit en fait long sur la manière dont Hopper voyait son travail de photographe débridé et spontané. Arrêté par un feu rouge, Dennis Hopper a saisi son boîtier et s'est redressé le temps de déclencher à l'instinct un grab shot, un cliché sur le vif. Et le temps d'un bref arrêt, il a saisi un moment suspendu de la vie américaine dans les 60s, avec ses immenses panneaux publicitaires, ses pompes à essence et ses voitures au chrome rutilant. En 1967, brutalement, Dennis Hopper décide d'arrêter la photo comme il avait commencé, pour la meilleure raison possible, explique-t-il. À part partir sur le front au Vietnam, j'avais fait ce que je voulais en faire en photo. Tenté depuis longtemps par la mise en scène, il décide de se lancer. Et pour un coup d'essai, c'est un coup de maître, doublé d'un retour fracassant. En 1969, Hopper réalise un des road movies les plus célèbres du 7e art, Easy Rider, où il joue avec Henry Fonda et Jack Nicholson. Film culte, emblème de la contre-culture hippie, Easy Rider obtient le prix de la première œuvre au Festival de Cannes et réalise 20 millions de dollars de recettes en quelques mois. Ce qui compte au moins autant et peut-être plus à Hollywood. L'enfant terrible d'Hollywood est de nouveau bankable, mais toujours aussi excentrique, pour ne pas dire cinglé. Au début des années 80, pour un happening, Dennis Hopper s'expose au public avant de faire exploser 6 bâtons de dynamite fixés sur une chaise et orientés vers l'extérieur, juste à côté de l'endroit où il s'est accroupi. Le cinéaste en ressort sérieusement secoué et à moitié sourd pendant plusieurs jours, mais à peu près indemne. Malgré des problèmes de dépendance à la drogue et à l'alcool qui ne passent pas, il reste toujours aussi doué. Son jeu intense et son regard clair font merveille dans Apocalypse Now de Francis Ford Coppola ou dans Blue Velvet de David Lynch, où il est au sommet de son art dans le rôle de Frank Booth, un pervers psychopathe. Si Hopper tourne moins dans les années 90, il laisse encore quelques souvenirs mémorables, comme dans True Romance, avec un scénario de Quentin Tarantino mis en scène par Tony Scott, ou dans Speed, un film d'action particulièrement efficace. Face à Keanu Reeves et à Sandra Bullock, il y incarne un terroriste qui piège un bus avec une bombe, destiné à exploser en dessous d'une certaine vitesse. Un magnifique salaud qui sera l'un de ses derniers grands rôles. Touché par un cancer à la fin des années 2000, Dennis Hopper rejoint les étoiles en mai 2010, à 74 ans, quelques semaines après en avoir vu apparaître une à son nom sur Sunset Boulevard. Mais ses films, comme ses photographies, sont immortels.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Dennis Hopper, nous avons le plaisir d'accueillir un spécialiste du cinéma américain. Bonjour Mathieu Orléans.
Bonjour.
Mathieu, vous avez rencontré Dennis Hopper à la fin de sa vie alors que vous prépariez une exposition consacrée à son œuvre à la Cinémathèque française. C'est toujours un enfant terrible ou est-ce qu'avec le temps il s'était un peu assagi? Quel souvenir il vous a laissé?
Alors moi je l'ai rencontré effectivement pour cette exposition qui a eu lieu en 2008 à Paris et il était un monsieur âgé, extrêmement gentil, attachant, bienveillant. Et on sentait qu'il avait une aura comme ça d'ambassadeur, paradoxalement d'une contre-culture, mais il provoquait le respect, je trouvais, à la fois chez des gens comme nous qui étaient français, qui venaient pour ce projet, mais aussi quand il se promenait dans la rue, parce qu'il n'avait pas peur, il n'était pas cerné de garde du corps, il n'avait absolument pas peur d'aller dans certains quartiers, même populaires de Los Angeles, et les gens le regardaient avec un certain respect, comme un témoin, comme un maître, comme quelqu'un qui avait traversé la folie des années 70 et qui en était revenu avec une forme de sagesse, je dirais même.
En 1969, avec son film culte Easy Rider, Dennis Hopper devient une icône de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood. Quelles étaient les promesses de ce mouvement et comment les réalisateurs qui y étaient associés ont renouvelé le cinéma?
C'était vraiment tuer le cinéma de papa, quoi. On était à cette époque-là dans un cinéma qui était très contraint, beaucoup de règles. Et ça correspond à ce qu'on a appelé la fin du code ACE, qui était un code qui empêchait certains thèmes, certains motifs, certaines violences, qu'elles soient pas toujours sexuelles, mais beaucoup aussi sexuelles. En tout cas, tout ça, ça a disparu. Et c'est vrai que des films ont germé qui se sont autorisés à représenter peut-être le monde un peu plus comme il était vraiment, quoi. Alors on dit que Bonnie and Clyde, que Easy Rider sont effectivement les premiers films qui ont inauguré à la fin des années 60 ce qu'on a appelé Nouvelle Hollywood, et particulièrement Easy Rider parce qu'il invente vraiment un nouveau genre, je dirais, qui est le road movie. On a deux personnages qui sont sur ces motos, dont Dennis Hopper, qui est donc à la fois le réalisateur et l'acteur principal du film avec Peter Fonda, et qui vont traverser comme ça cette Amérique, une Amérique qu'on montre parfois peu, une Amérique rurale, une Amérique ambigu, parce qu'à la fois il est hippie, mais il y a aussi les rednecks, cette sorte de, déjà dans la pomme, le vert qui va faire peur, qui est celui d'une Amérique très raciste, une Amérique qui est le contraire de ce que représente Dennis Hopper. Mais c'est ce contraste qui est très intéressant dans le film. Ils partent de la côte ouest et ils vont vers l'est, ils vont vers la Nouvelle-Orléans, et c'est un mouvement de retour. La plupart des westerns, c'est le contraire, ils vont vers l'ouest, et lui, il va vers l'est. C'est aussi parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le cinéma européen, et ça, c'est quelque chose d'assez typique du nouvel Hollywood. Ce sont des cinéastes qui aimaient la nouvelle vague, qui aimaient le néoréalisme italien, et ce sont des cinéastes qui, donc, avaient une culture qui n'était pas que américaine, mais aussi européenne, tournée vers l'est, donc.
Je crois même savoir que pendant le tournage d'Easy Rider, Dennis Hopper n'a pas failli à sa réputation un peu sulfureuse.
Exactement, on sait tous, c'est de notoriété publique. Effectivement, c'était une époque où la drogue circulait beaucoup, l'alcool. Il faut dire qu'il avait une grosse pression sur les épaules parce que c'est son premier film, Easy Rider. Et effectivement, la première scène a été tournée à la Nouvelle-Orléans. Les producteurs lui faisaient confiance peut-être qu'à moitié. Ils lui ont donné une caméra 16 mm, donc pas la grosse caméra 35, mais une plus petite caméra, pour faire cette scène culte qui est une scène de trip sous LSD dans un cimetière. Et il paraît qu'il est devenu, par exemple, c'est un exemple, qu'il est devenu un peu dingue. Alors, est-ce qu'il a pris de la drogue ou pas vraiment? En tout cas, il était hors de lui, ingérable. Les producteurs ont voulu presque arrêter le tournage. Mais il a été quand même soutenu par la personne qui avait mis le plus d'argent sur le film et qui a dit non, c'est normal, il sait ce qu'il veut. Et ce moment de panique ou de crise, c'est le signe aussi que l'artiste a un point de vue, a une perspective et il faut l'écouter. Mais c'est vrai que ça a, je crois, ruiné son couple. Il était marié à l'époque avec une actrice qui était vraiment représentante de l'ancien genre hollywoodien, parce qu'elle était elle-même la fille d'une actrice, d'un producteur très connu, qui s'appelait Brooke Hayward, et ça, je crois, a fait exploser en vol leur divorce, parce qu'il était totalement ingérable, et d'ailleurs après il a peu tourné, ça a été une période des années 70 où il a très peu tourné.
Avant de faire ses preuves en tant que réalisateur, Dennis Hopper a donc arpenté l'Amérique pour en photographier les paradoxes. Dans quelle mesure le fait qu'il ait il a pratiqué la photo lui a permis ensuite de à influencer sa façon de faire du cinéma?
Je dirais qu'on trouve effectivement dans ses photos, beaucoup noir et blanc, un sens du cadre qu'on va retrouver dans ses films, le rapport entre des personnages et un espace, des villes, mais aussi les routes. On sent quelque chose comme une promesse d'un récit qui va s'enclencher. Il aime beaucoup filmer les performances, donc des choses qui ont à voir aussi avec, paradoxalement, même si c'est de la photo, du mouvement, de l'action. Donc on retrouve tout ça, on a l'impression qu'il trépigne un petit peu. Je pense que quand même le cinéma est peut-être ce qu'il représente le plus. Il l'a dit dans l'entretien que j'avais fait avec lui, que c'était un art total et que c'était quelque chose, je crois, qui peut-être le nourrissait le plus. Et que dans les photos qu'il devait adorer, hein, il faisait de la photo déjà dans les années, fin des années 50, donc 10 ans avant la réalisation de son premier film. Voilà, peut-être qu'il cherche à capter ce mouvement, il cherche à raconter une histoire. Donc je pense qu'il s'est un peu entraîné avec la photographie. C'est peut-être pas un hasard si cette photo qu'on aime tous tant, Double Standard, qui date de 1961, a été tournée sur Santa Monica Boulevard, qui ensuite, ce Santa Monica Boulevard devient la route 66, qui est celle qu'empruntent justement les héros d'Easy Rider. Donc en fait, on pourrait presque voir Double Standard, qui est une photo de 1961, comme la promesse déjà d'Easy Rider. C'est une photo qui va presque bouger, il y a une voiture, et puis ça va donner naissance à effectivement ces films qui ont toujours ce goût pour le mouvement. Mais encore une fois, oui, la photographie, en tout cas celle des années 60, va annoncer les films qu'il va réaliser. Les photographies qu'il fera plus tard dans les années 90 sont très intéressantes, mais sont plus abstraites. C'est des photos de murs, de murs décharnés, de graffitis. C'est un peu la face cachée de certaines grandes villes et que lui va aller arpenter parce qu'il aime toujours aller un peu dans les bas-fonds. Et c'est des photographies plus abstraites, moins de personnages et plus de couleurs aussi.
Difficile de résumer Dennis Hopper. Il était acteur, photographe, réalisateur, peintre, sculpteur, performeur. Au fond, quel est le fil d'Ariane, le fil conducteur de toutes ces pratiques et qu'est-ce qu'il cherchait à montrer ?
Je pense qu'il cherchait à montrer quelque chose qui n'était pas très visible à l'époque, qui était un peu la face cachée de l'Amérique, quoi, cette forme de folie, cette forme de culture un petit peu borderline, de liberté aussi. Il était très libre, très insolent, il faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et donc on retrouve ça effectivement dans certaines performances un peu dingues qu'il avait mises en place. Il y en a une en particulier dont on a des photos où il s'était entouré de dynamite. Mais c'est vrai que du coup, il y a souvent ce goût comme ça d'une prise de risque, ces photographies très politiques. Il a suivi Martin Luther King par exemple. Donc il y aurait ce fil rouge comme ça d'un engagement, d'une liberté, d'un anticonformisme, d'un goût pour l'avant-garde, qui est quelque chose qu'il définit.
D'ailleurs, il était collectionneur. Il a été un grand collectionneur d'art. Il s'est tourné vers le pop art avant tout le monde. Qu'est-ce qu'on pouvait admirer d'ailleurs au sein de la galerie Hopper ?
Alors, il habitait dans une maison incroyable à Venice Beach, qui était une maison construite par l'architecte Frank Gehry.
Oui.
Très bel endroit, qui a été, je crois, un endroit dangereux quand il s'est installé là-bas dans les années 80, parce que c'était près de certains quartiers très chauds. Et donc, c'était comme une sorte de forteresse avec toutes ses œuvres d'art à l'intérieur, dans un quartier qui était un quartier un peu populaire. Il n'habitait pas volontairement, disons, à Beverly Hills, là où les stars habitent d'habitude. Il habitait ailleurs, volontairement. Et on y trouvait, c'était incroyable, on y trouvait toute l'histoire du XXe siècle, quoi. Il était un des premiers à avoir acheté certains Warhol. Warhol a eu des expositions très très précoce à Los Angeles, même avant New York, et il a acheté des pièces, je crois, à $100, et donc qui étaient là, qui témoignent de la naissance du pop art américain. On retrouvait des amis, des gens qui sont pas forcément très connus en France, mais des artistes un peu d'Arte Povera américain, jusqu'à des Rauschenberg, des Lichtenstein, et beaucoup la jeune scène contemporaine aussi. C'est-à-dire qu'il était très soucieux de défendre des jeunes artistes qui étaient pas forcément des gens très connus, des Mexicains, des gens de communautés indiennes aussi, parce qu'il vivait en partie au Nouveau-Mexique et il avait ce goût et cette culture-là. On trouvait un Basquiat géant, par exemple. Cette œuvre-là était magnifique. On l'a montré à la Cinémathèque. C'était une œuvre des années 80. Et il disait, Dennis Hopper, la seule dans laquelle Basquiat a peint une caméra. Et donc on voyait une caméra. Donc c'était presque une mise en abîme de tout son travail. Donc c'était particulier, parce que j'ai lu des articles en disant que dans les années 60, en tout cas, dans les galeries d'art les plus pointues de Los Angeles, il y avait très peu de gens de cinéma qui venaient. Et le galeriste était étonné de voir Dennis Hopper, qui était déjà une petite star. Il avait joué dans La Fureur de Vivre avec James Dean. Donc il était un acteur en vue. Et c'était une rareté de voir des gens de ce milieu s'intéresser à l'art émergent qu'elle prépare aujourd'hui. C'est très connu, mais à l'époque, non.
Mais merci beaucoup, Mathieu Orléans, de nous avoir raconté le sulfureux mais génial Dennis Hopper. Pour découvrir les photographies qu'il a lui-même compilées, je vous recommande le très bel ouvrage Dennis Hopper Photographs 1961-1967, paru aux éditions Tachène. Merci beaucoup.
Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Castel-Lopez, et Gavin Clement et Ruiz ont réuni des personnages qui ont eu le déclic de la photo. Après Émile Zola et Denis Hopper, vous nous racontez Jean-Luc, un animateur photographe à 16 heures.
Oui. Aujourd'hui, à cause des smartphones et des réseaux sociaux, nous sommes tous photographes. Chaque jour, plus de 3 milliards de photos sont partagées en ligne. Tiens, rien que durant ce début de récit, une personne aura pris en moyenne 6 photos de son chat, une autre 3 de sa tartine à l'avocat et une autre 12 selfies de lui dans un studio radio au lieu de m'écouter.
Ah non, je ne fais pas de photos, moi.
Je vous vois, Stéphane.
Ah non, mais bah non.
Tout le monde vous voit, mais mes camarades peuvent en témoigner.
Et déjà, on est filmé.
Oui, bien sûr. Alors, ils coupent les caméras, escrocs, va. Alors non, je ne suis pas en train d'écrire un pamphlet contre les smartphones et Instagram. Je dis juste que la facilité à prendre un cliché, à le retoucher, le filtrer, laisse croire à beaucoup trop d'entre nous qui sont des Robert Doisneau, des David Lachapelle ou des Nikos Aliagas. Oui, j'ai dit Nikos Aliagas, notre Nikos Aliagas.
Mais c'est la voix de Nikos, là,
j'ai fait, c'est bien fait.
Ouais.
Ben, je peux pas tout vous passer, mais c'est l'envie d'aimer, en grec, par Nikos. Et nous, on a envie de l'aimer, Nikos, car il sait tout faire. Et parce qu'il est beaucoup plus connu que votre Émile Zola, là. Non, Nikos ne fait pas que crier des noms de gens connus ou inconnus sur des plateaux de télévision.
Ed Sheeran, Attic, Clara Luciani, Kenji, Girac, Angèle.
Pourquoi vous ne faites pas ça en secret d'histoire?
Louis XIV. Vous avez fait un montage qui est ridicule. Là.
Non, c'est pas ridicule. C'est très difficile à animer les Energy Music Awards.
Ben parce qu'il est là, il doit annoncer des gens, etc. Mais c'est un très bon animateur télé, mais il est peut-être encore meilleur photographe.
Ça n'engage que vous. Moi, je le trouve très bien partout.
Oui,
il est... il s'est piégé tout seul. Non, il ne fait pas que ça, Nikos. Il photographie tous ces gens. Et le déclic de la photo, lui, il l'a eu très jeune. Mais comment passe-t-on de la danse de Zorba à une reprise de Last Ketchup par Georges Alain dans la Starac? On est aussi passé par un incident diplomatique, vous vous souvenez, avec Aya Nakamura?
Voici Yaka Nakamura.
Oui, mais c'est vrai, quand on l'avance, on dit Yaka.
Voyons, on le perd, ça y est. Okay. Au passage, entre nous, elle est quand même très susceptible à Yana Kamura.
Ah oui, moi je trouve. Hein,
mais Stéphane, ça fait 3 ans qu'il appelle David Castello Lopez. David Castello Lopez, est-ce qu'il s'est plaint une seule fois?
C'est arrivé, mais en fait...
Non, ça arrive tous les jours.
Hein. Lopez, c'est... Parce qu'entre le portugais et l'espagnol...
Oui, voilà, il y a confond l'Espagne et le portugal.
Voilà, bien sûr, Stéphane Berck.
Moi, ça ne me gêne pas, vous savez, ça ne me gêne pas.
D'accord. Ouais. Alors comment, en faisant tout ça, Nikos a fini par présenter ses plus beaux clichés à la scène musicale, à Boulogne-Billancourt, lors d'une exposition inédite et interactive. Journaliste, animateur, confesseur de stars, entertainer, 50 minutes insider, et désormais photographe, Nikos Aliagas cumule les jobs. Il est la Pénélope Fillon du PAF. Sauf qu'avec lui, rien n'est fictif. Est-ce que je vous ai dit qu'il était chanteur?
Mais oui.
Mais mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour.
Il a une voix, moi je trouve qu'il a une voix sublime.
Oui, bon là on se rend pas bien compte parce qu'ils ont mis des instruments de musique un peu trop forts, mais Nikos a une super voix de crooner, vous avez raison. Alors, telle une olive de Kalamata, dénoyautons ensemble la carrière incroyable du grec le plus célèbre de France.
Vous allez le faire avec les dents.
J'ai pas cette proximité avec lui.
Non, mais les olives de Kalamata, excusez-moi, mais ça se dénoyote avec les dents. Hein.
Bah, écoutez, on va y aller doucement. Hein. Comme tous les Grecs célèbres en France, Nikos Aliagas est né à Paris en 1969. Ses parents sont grecs. Papa est ailleurs, maman est ici et infirmière de son métier. Il a une sœur cadette, Maria. Nikos a 2 enfants. Il n'a rien contre le halloumi grillé et dîne de temps en temps avec Stéphane Bern quand les deux se retrouvent sur l'île de Paros en vacances. Je me trompe, Stéphane?
Non, mais c'est arrivé, oui. On a passé des vacances ensemble.
Racontez un peu comment ça se passe. Nikos, il prend une entrée ou c'est plat direct? La France veut savoir, Stéphane. Et vous parlez de quoi quand vous êtes tous les deux? De Dana Mouskouri, de vieille urine?
De vieille urine. C'est de Nana Mouskouri ou de Vieille-Ruine, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion entre les deux.
Non, David, arrêtez de dire que c'est un pléonasme. Franchement, c'est moche.
Non,
c'est moche.
Non, mais vous ne pouvez pas assassiner tous mes amis.
Mais je n'ai rien fait.
On vous connaît, David. Côté neurones, on est sur une moyenne assez haute. Il fait ses études à la Sorbonne, il décroche une maîtrise de lettres modernes, parle 6 langues. Le français, le grec, l'anglais, l'italien, l'espagnol et le Nikos.
Qui possède l'étoffe d'un gagnant ce soir? Je vous pose la question, qui? Ludovic?
Ludovic, prénom très en vogue actuellement.
Natacha Saint-Pierre, Natacha...
Il débute en tant que journaliste chez Euronews, une base plutôt sérieuse donc. Oui, on danse rarement le sirtaki sur des tables pendant une interview politique. Non, ça il le fera plus tard chez Christine Bravo pour l'émission Union Libre.
Tout l'amour que j'ai pour toi, 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 toi,
toi. La thématique c'est l'Europe, quand l'Europe était encore une promesse. Nikos représenta donc... Alors
bah, la Grèce. Oh, la Grèce.
Ah, c'est bien, vous suivez. Nikos devient en France le grec de service, avec tous les clichés qui vont avec. De la feta, Boustaki, en passant par Zeus et le régime crétois. Cette fantaisie télévisuelle révèle notre Nikos au grand public, mais ses lettres de noblesse d'animateur, il va les gagner en débarquant chez TF1 en 2001 pour présenter une émission devenue culte, la Star Academy. Je ne vais pas revenir en détail sur l'aventure Starac, hein, entre les émissions best-of, hommage, récap et le reboot qui va pas tarder à commencer. Ça serait comme vous proposer une fondue savoyarde alors que vous venez de vous faire poser un anneau gastrique. Idem pour la franchise The Voice, hein, autre gros succès pour notre Athénien parisien. Je crois que vous connaissez le principe, des anonymes qui chantent, un anonyme qui gagne et qui restera anonyme quand même. Donc oui, Nikos à la télévision, c'est l'amiral, le boss, le grand Manitou, celui à qui on peut confier n'importe quelle émission, du prime time événement en passant par le tuto cuisine, ou la nécrologie d'une vedette des années 80, c'est un gars sûr. Il n'arrête pas. On se demande comment il a évité le burn-out. Peut-être grâce à une échappatoire qui l'accompagne depuis l'enfance, la photographie. Raconter sa journée à l'école, c'était raconter des images. Il dit aussi avoir été marqué par toutes les photos retrouvées dans la boîte à chaussures de ses grands-parents. Des souvenirs inestimables. Dès 8 ans, il colle son œil derrière un objectif quand son père lui offre un instamatique Kodak. Il commence à jouer au photographe en réalisant quelques portraits de famille. Désormais, tel un Dominique Strauss-Kahn de l'autofocus, Nikos a toujours son appareil à portée de main.
Comme le zizi de Dominique Strauss-Kahn.
Donc, le zoom, bien sûr.
Merci Gavin pour cette précision.
Oui. Ah oui, c'est pas mal. C'est un truc qui voilà.
Oui,
qui
c'est vrai.
Zoom, c'est pas un focal fixe.
Oui. J'ai l'impression que vous découvrez la vie un peu, Stéphane. Donc, Nikos raconte « Je me souviens pas d'une fois où je n'ai pas sorti mon appareil. » Les stars le savent maintenant. On cherche un endroit, une lumière, un angle. C'est souvent improvisé, plié en 3 ou 4 clics, sans une grande mise en scène. Calmez-vous, autour de la table, hein. On parle de photos là quand même. Hein. Donc Nikos shoot les stars qu'il rencontre, mais aussi des paysages ou encore des scènes de vie. Il a appris sur le tas à la Nikos. D'ailleurs, il le dit lui-même, hein. Il n'est pas patient et ça l'emmerde de lire une notice. On a tous envie de le voir prendre des médicaments. Comment ça, 14 doliprane, c'est trop? Sa spécialité, le noir et blanc. Pourquoi ? Ça lui rappelle le cinéma de sa jeunesse. De clichés du peintre Pierre Soulages à des portraits pour témoigner du temps qui passe, Nikos multiplie les thématiques et tout le monde se presse pour admirer et reconnaître la qualité de son travail. Stéphane même lui-même en parle. « Je me presse pour admirer et reconnaître la qualité de son travail. » M'a-t-il confié en préparant cette émission.
J'ai jamais dit ça.
Et il a ajouté « En plus, l'entrée est gratuite. »
Oh non.
Ah si, c'est vous ça.
Et il y avait des petits fours et, voilà. Et du champagne gratos.
C'est pas très difficile de vous attirer finalement.
Mais... Hein ah bah oui, moi, vous savez.
Bon. Et s'il y a de fortes chances que son œuvre télévisuelle finisse dans un dossier, enfoui au cœur d'un disque dur de l'INA, aux côtés d'un best-of de La Roue de la Fortune, ou d'un « C'est mon choix spécial, je ressemble beaucoup à mon chien », ses œuvres photographiques, elles, perdureront et ne finiront pas comme de simples images d'archives. Parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont lui et tout ce qu'il habite. Je vous laisse sur cette sonorité.
Mais il sonne vraiment bien, hein. Il a plein de talents quand même.
Ouais, c'est fou, il a tous les talents.
Il est énervant.
Oui,
il sait faire trop de choses.
Oui. Puis il est musclé en plus.
Ah oui, vous avez.
N'exagérez pas.
Non, il est charpenté. Quoi.
Il est charpenté.
Ouais. Mais c'est un ami fidèle surtout. Et ça, je trouve que les qualités humaines, c'est ce qui reste. Hein.
Putain.
Même quand on n'est pas charpenté.
Pas de défaut.
Ouais. Merci Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont eu le déclic de la photo pour retrouver deux êtres qui ne tombent jamais dans le cliché. David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines de votre grippe.
Oui, et de ceux des autres.
Oui, bien sûr. Oui. Enfin, c'est en le regardant, le vôtre,
tout à fait.
Ça vous a inspiré une chronique.
Oui.
Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux, quelle époque.
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
Et aujourd'hui, avec vous, Gavin Clemente-Ruiz, notre globe-trotteur de l'histoire. Ça s'est passé dans le passé, mais c'est toujours présent au présent, on remonte là aux années 20 pour évoquer l'une des routes mythiques qu'a d'ailleurs emprunté l'un de nos personnages du jour, Dennis Hopper, pour Easy Rider, c'est la fameuse route 66.
Oui Stéphane, c'est la fascinante route 66 qui est entrée dans l'imaginaire des Américains. C'est un culte qui a même dépassé les frontières. Cette route qui va de Chicago à Los Angeles, grosso modo ça fait 4000 km, 3943 si on veut vraiment être précis. Elle fascine, pourquoi ? Parce qu'elle symbolise le rêve américain. Ce sont les pauvres paysans du Middle West, des raisins de la colère de John Steinbeck ou du film de John Ford, qui fuient l'Est pour aller vers l'Ouest et trouver un peu d'argent. Une certaine vision de la ruée vers l'or, si on veut. C'est à cette époque, après la crise de 1929, que la route est tracée, construite même, entre 1926 et 1938. Alors, on l'a surnommée la Mother Road, la route mère, la route maternelle, celle qui nourrit, celle qui sauve. Et avec son développement, c'est tout un imaginaire qui apparaît. L'Amérique, avec cette route, se modernise. C'est l'apparition des motels, des stations essence, comme on voit dans les films, des diners. Le premier McDo, aussi McDonald's, qui s'est ouvert en 1940 à San Bernardino, en Californie. On vendait à l'époque des burgers à 15 cents. Ça a bien changé, ouais. Tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les films américains. Alors, la route, elle traverse 8 États. 3 fuseaux horaires. Elle longe des sites naturels grandioses, c'est pour ça aussi qu'elle fascine, comme le Grand Canyon, les cratères de l'Arizona ou encore les villages fantômes du Far West. Des sites hyper photogéniques, on est encore dans la thématique, ou alors instagrammables, comme on dit aujourd'hui. On peut dire sans se tromper que cette Mother Road, c'est le symbole de l'identité américaine, de la liberté et des grands espaces.
Et beaucoup sont emparés du mythe alors.
Eh ouais, il y a eu la série télé Route 66, la chanson des Rolling Stones aussi, ou alors celle de Candidate, les films comme Easy Rider, Thelma et Louise, ou alors Bagdad Café, on se souvient. Tous ces films, toutes ces chansons ont fait pour la renommée de cette route que tout le monde a voulu emprunter. C'est devenu un grand classique touristique pour faire pareil que ces héros qui, au départ, fuyaient la pauvreté pour accomplir leurs rêves. Ne l'oublions pas au départ. Finalement, quand on y pense, il y a peu d'endroits dans le monde où vous avez des souvenirs en stéréo, en images et en son, et c'est ça aussi la magie de la route 66.
C'est quand même plus tout à fait ce que c'était la route 66.
Bah ouais, alors elle est devenue route historique en 1985. De nombreux tronçons ont été abandonnés au profit des highways, les autoroutes. Et ces tronçons, ces bouts de route sont en piteux état, faut bien le reconnaître. Elle fait partie d'ailleurs des sites à sauver par le World Monuments Fund, c'est l'équivalent de la Fondation du Patrimoine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que c'était.
Oui, mais c'est un peu à l'image de l'Amérique dont l'étoile a un peu pâli, non ?
Exactement. Mais en même temps, elle continue à fasciner cette route 66, même avec du bitume fissuré. Il y a plein d'images, vous verrez, on voit des grosses touffes d'herbe en plein milieu de la route. Il y a toujours des bikers qui sont sur leur Harley pour perpétuer le mythe. Les trucks ont été remplacés par les SUV. Et on ne se lasse pas quand même de chantonner.
Elle est la preuve qu'on peut être mythique et en même temps piteuse.
C'est exactement ça.
À la limite, un peu dégradé, vous voyez.
C'est ça, exactement ça.
Ah oui, mais ça donne quand même un peu d'espoir. C'est-à-dire, on peut la restaurer quand même. Ça,
on peut la restaurer, on peut être mythique et dégradé.
Non mais, il n'y a pas des gens qui militent pour la...
Si, il y a plein d'organisations, il y a plein de collections, il y a plein d'organisations nationales qui veulent la restaurer, mais c'est encore un peu... Elle est un peu laissée de côté, mais ça reste un souvenir.
Il n'y a pas des grands mécènes qui peuvent voler à son secours ?
Non, pas encore.
Ils sont occupés en Amérique. À construire des murs, vous savez.
Qu'en Amérique, il y a des philanthropes, vous savez.
Oui, bien sûr.
Bon, enfin bref. En tout cas, merci Gavin Sclementer-Ruiz. Vous nous avez fait voyager sur cette route 66, symbole du rêve américain.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoine, Gavin Sclementer-Ruiz. Mais maintenant, c'est à vous, David Casse-Lopez. Lopez.
Ça y est, j'ai bien dit.
Ça rentre enfin. Parce que maintenant, je m'inquiète. Oui, Lopez. Casse-Lopez. On va parler de votre grippin ou des grippins en général.
Tout à fait. Fondamentalement, on n'a pas besoin de grippin. On peut très bien manger son pain pas grillé. Mais chaque fois dans ma vie que je me suis retrouvé dans des situations sans grippin, par exemple chez les gens qui mangent des biscottes, ou alors chez vous, il y a des couples décroissants, vous voyez, qui veulent vivre comme au XVIe siècle, j'ai été triste. J'ai été triste parce que sans grippin, le bonheur de la tartine est divisé par au moins deux. Voilà, c'est d'après mes calculs. Et donc, j'ai appris à être reconnaissant envers cet objet simple. On y met sa tranche dans un espace dont la largeur lui est parfaitement dimensionnée. Titre, on abaisse un levier, la tartine est enserrée dans une petite cage qui la maintient en place et immédiatement, un alignement de résistance commence à rougir. Et quand le pain est prêt, pardon, le grille-pain l'éjecte automatiquement avec un bruit pas très agréable, mais qui fait saliver parce qu'il annonce l'imminence du festin. Voilà, j'ai pensé que cette description était importante pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un grille-pain. Voilà, maintenant, ils savent. Bon, tout porte à penser que le premier grille-pain de l'histoire, c'était juste un gars qui a planté son pain au bout d'une pique et qui l'a approché du feu. Et ensuite, il a mangé, il a dit « c'est meilleur comme ça ». Voilà, c'est comme ça que je l'imagine.
Surtout
en tout
si
cas.
Le pain était dur, peut-être.
Exactement, plus ça aide.
Ça aide, parce que tout il retrouve une certaine fraîcheur.
Ça aide à déracir le pain. Oui. Au XVIIe siècle, il y a des traces de proto-grille-pain qui se présentent sous la forme d'une tige avec de petites griffes qui permettaient de faire tenir le pain en équilibre verticalement. Et ces griffes, elles étaient disposées sur une petite plateforme rotative que l'on pouvait faire tourner pour exposer l'autre face du pain au feu une fois que la première était grillée. Mais évidemment, les débuts du grille-pain moderne autonome, ils datent de l'électricité. Parce que l'électricité, non seulement ça permet de faire avancer des trucs, mais si on fait passer de l'électricité par un matériau qui a du mal à la laisser passer, eh bien ça crée de la chaleur. C'est ça qu'on appelle une résistance. Et il ne s'est donc pas passé très longtemps après l'invention de l'électricité, avant que quelqu'un ait l'idée d'appliquer la résistance à la grillade du pain. Il y a des brevets de grille-pain qui ont été déposés au tout début du XXe siècle, mais le premier grille-pain qui s'approche de ceux qu'on a dans nos cuisines, il date de 1912. C'est le fameux modèle D12 de General Electric que je vous montre ici en studio. On peut le décrire un petit peu. Moi, j'adore ce genre d'objet parce qu'ils ont un pied dans le 19e siècle. Vous voyez, il y a un socle en porcelaine peinte. Et en même temps, il y a déjà de la modernité puisque ça fait chauffer du pain sans le feu, ce qui est quand même quelque chose de très moderne et qui ressemble beaucoup à ce qu'on a aujourd'hui.
C'est effrayant. On dirait une mini-centrale électrique.
Mais tout à fait. Exactement, c'est tout à fait ça. On dirait une sorte de pylône qu'on pouvait poser à la table du petit déjeuner. Alors, ce grille-pain, il lui manquait quand même deux choses, deux grosses innovations pour être à la hauteur de ce qu'on a aujourd'hui, à savoir que, un, il ne s'arrêtait pas automatiquement, donc il fallait surveiller son pain et le débrancher au moment où le pain était prêt, et deux, il ne grillait qu'une seule face du pain à la fois, donc à mi-chemin, il fallait retourner sa tartine comme on retourne une cassette audio dans un Walkman de 1992. Le premier grille-pain qui avait toutes ces caractéristiques, on considère que c'est le fameux Toastmaster disponible dans le magasin américain depuis 1926. Je vous le montre en studio une nouvelle fois. On sent l'art déco, vous voyez, on dirait le Chrysler Building. C'est tout chromé et il n'y a plus grand-chose qui le sépare en fait finalement de ce qu'on a aujourd'hui dans nos cuisines. Alors aujourd'hui, il existe des trucs encore sensiblement plus perfectionnés. Il y a des grille-pains connectés. Qui vous envoie un texto quand le pain est grillé ou si vraiment vous avez envie. Mais fondamentalement, le design n'a pas changé. C'est un objet qui, devant tout ce qu'on a aujourd'hui, peut paraître rudimentaire, mais qui en fait n'est pas tant que ça. Il y a quelques années, il y a un designer anglais qui s'appelle Thomas Thwaites qui a décidé de fabriquer un grille-pain tout seul et il s'est rendu compte d'à quel point le grille-pain était un objet complexe. Il pensait que ce serait relativement simple. Mais il a commencé par ouvrir un grille-pain premier prix et il s'est rendu compte qu'il y avait plus de 400 pièces différentes à l'intérieur et plus de 30 matériaux différents. Et il s'est dit, je vais y aller, je vais faire mon propre grille-pain tout seul. Donc il a sélectionné les plus importants de ces matériaux, l'acier, le mica, le cuivre et le plastique. Et puis il est allé dans une mine de fer pour extraire du minerai de fer pour pouvoir faire l'acier qu'il y a à l'intérieur du grille-pain. Il l'a fait fondre dans une sorte de haut fourneau domestique qu'il a fabriqué chez lui. Puis il est allé chercher du mica tout seul dans une montagne en Écosse pour faire le mica du grille-pain. Il a fait du cuivre par électrolyse. Pour le plastique, il s'est rendu compte que c'était impossible d'en produire sans matériel industriel. Alors il a fait fondre du plastique recyclé. Et ce qu'il a obtenu après des mois de travail, c'est un grille-pain complètement nul qui ressemblait à rien, qui lui a coûté 2000 euros pour être fabriqué et qui a marché en tout et pour tout pendant 5 secondes. Et je vous assure que depuis cette expérience dont j'ai appris l'existence il y a une petite dizaine d'années, je regarde mon grille-pain avec beaucoup plus de respect et d'émerveillement. Le grille-pain, c'est un trésor d'inventivité et de collaboration entre les hommes. J'ai regardé aussi pour par curiosité quel était le grille-pain qu'on pouvait acheter avec le plus de fente pour mettre des tartines. Oui. 8. Voilà.
8 fentes.
Voilà, petit fun fact
ça, c'est
pour finir.
C'est bonus. Merci. Ça, j'espère que ça va pas me coûter trop cher. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec Jean-Luc Lemoyne et toute l'équipe et surtout trois nouveaux personnages. Trois dames qui ont sauvé leur bien-aimé. La grande figure de la résistance, Lucie Aubrac, qui a fait évader son mari Raymond à la barbe et au nez des nazis. Puis Nita Raya, la danseuse et compagne de la star du musical Maurice Chevalier, qui l'a sauvée du peloton d'exécution.
Et moi, je vous raconte Margot Dukes-Eddy, qui a aussi sauvé son mari, pas des nazis, mais d'une attaque de requins. Elle n'a pas été décorée, mais mérite quand même le respect, oui. Vous verrez.
Mais elle n'a pas été dévorée, elle, non plus.
Ah, je ne vais pas tout spoiler, mais ça se finit plutôt bien.
Je n'en doute pas. À demain, les amis, à demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.